dans Malachie 3, verset 6. Si vous avez trouvé, vous pouvez dire amen. Je vais lire au nom du Seigneur. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Vous pouvez vous asseoir. Le titre de mon message, c'est la certitude dans un monde incertain. Nous vivons dans un monde changeant et incertain. Certaines choses vont disparaître, tandis que d'autres vont rester. Des millions de gens, spécialement des jeunes, sont à la recherche d'un but, d'une manière de vivre ou encore d'une raison d'être. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Déjà, le poète anglais William Shakespeare écrivait au 15e ou 16e siècle une citation essentielle qui a franchi plusieurs décennies. « To be or not to be ». Excusez-moi pour mon anglais. « Être ou ne pas être ». Voilà la question. Je pourrais vous parler aussi de Platon, de Socrate, philosophe, qui s'interrogeait sur les mêmes questions. C'est quoi la vie ? Pourquoi nous vivons ? Tout le monde s'interroge sur ces questions essentielles. Nous souffrons, nous nous battons, nous crions d'une voix forte. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je sais qu'un jour je vais mourir. Alors pourquoi vivre? Certains ont ces pensées. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de suicides. Et la vie semble avoir aucun sens. Vous savez, j'ai un collègue de travail. Il avait tout pour réussir. Il avait un bon poste, il avait une bonne paye, mais à cause d'un seul péché, l'adultère, aujourd'hui, ça l'a conduit au suicide. Cette personne est décédée. Et cette personne, quand elle est morte, son fils fut brisé. Et son fils, lui aussi, s'est suicidé. Voilà ce qu'apporte le péché dans la vie des hommes. Tout est transition. Il n'y a rien de sûr. Quel avenir ont les jeunes aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose? L'économie est de moins en moins sûre. Les crises économiques sont de plus en plus fréquentes. Les richesses naturelles s'épuisent graduellement. Les jobs sont rares. La nature est de moins en moins sûre. La couche d'ozone, la pollution de l'air, de l'eau, sans oublier les récents problèmes nucléaires que nous avons avec Tchernobyl et cette année avec le Japon. Nous vivons dans une période où les changements sociaux, scientifiques et religieux changent si rapidement. Avant la révolution tranquille des années 60, l'homosexualité et l'avortement étaient considérés comme un crime. Ce qui était péché dans les années 30 est parfaitement normal aujourd'hui. Je dirais même une chose, que si tu veux prendre position, une position traditionnelle contre ces choses, c'est toi qui as l'air d'avoir péché. Depuis les dernières années, nous avons assisté à plusieurs bouleversements dans nos vies. Et nous pouvons voir ces changements aussi dans le monde entier. C'est comme s'il n'y avait plus rien de sûr. Malgré tous ces changements, malgré tous ces bouleversements, heureusement qu'il y a des choses qui ne changent pas. Dieu ne change pas. Dieu dans sa nature ne change pas. Malgré toutes les années et les siècles qui ont passé, Dieu demeure toujours le même. Et Dieu affirme dans sa parole que nous avons lue dans Malachie 3:6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et la Bible affirme aussi dans le psaume 90, verset 2, « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Il est difficile de comprendre cela. Il est difficile de croire que Dieu, qu'en Dieu, il n'y a aucun changement, aucun commencement et aucune fin. La seule façon que nous pouvons l'accepter, c'est par la foi. Mettre notre confiance en Dieu, ce que nous dit la Bible. Jacques renforce aussi cette idée de certitude avec Dieu. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Merci Seigneur. Quelles sont les certitudes que nous pouvons avoir avec Dieu aujourd'hui? Nous pouvons ressortir au moins 6 domaines dans lesquels nous pouvons avoir la certitude au sujet de Dieu. Premièrement, Dieu ne change pas dans son amour. Dieu ne change pas dans son amour pour les hommes. Savez-vous aujourd'hui que Dieu vous aime? Est-ce que vous le croyez? 1 Jean 4, verset 16 nous dit: nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il est important de savoir, premièrement, que c'est dans la nature de Dieu d'aimer. Autrement dit, aimer fait partie de sa personne. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui le force ou qui lui est imposé. Dieu aime parce qu'il est amour, avec un grand A. Et c'est sa nature. Dieu nous aime. Dieu est intéressé par nous. Dieu est concerné par nos vies. Dieu est concerné par nos vies. Jérémie 31, 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. Cet amour dans la nature de Dieu n'est pas sujet au changement. Dieu a décidé de nous aimer alors que nous-mêmes n'étions pas aimables. Alors que nous sommes ses ennemis à cause du péché. Lorsque Jésus a dit « Aimez vos ennemis », il savait de quoi il parlait. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Tite 3, verset 4 à 5. Dans toute histoire d'amour, il y a nécessité de prouver son amour. Dans certains films romantiques, on entend souvent cette déclaration « Prouve-moi ton amour ». Chez les humains, nous avons besoin de cette démonstration, de cette preuve. Vous savez quoi? Dieu l'a fait. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, pour vous et pour moi. Merci Seigneur. Il a décidé de nous aimer et il nous aime. C'est pourquoi nous pouvons constater dans la Bible qu'il nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! Et Jean 3, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Son amour est inconditionnel, non seulement parce que Jésus-Christ a décidé de donner sa vie pour nous, mais encore, il a donné sa vie alors que l'on ne méritait rien. On méritait le jugement, mais lui a donné sa vie. Et vous savez quoi ce soir, Église, mon ami? Jésus-Christ veut que je réponde à son amour et que tu répondes à son amour. Jésus-Christ veut que tu t'approches de lui. Il veut que tu reçoives son amour dans ta vie. Amen. Dieu ne change pas dans ses jugements. Autrement dit, Dieu ne prend pas ses décisions en fonction des jurisprudences. Voilà comment fonctionne notre système judiciaire. Un juge détermine la pénalité d'un délit en fonction d'un autre juge à déterminer. Et si un juge renverse le jugement précédent, il devient une jurisprudence. Ainsi, tout est relatif et incertain. Mais sachez une chose, qu'un jour, nous aurons à rendre compte de notre attitude vis-à-vis de l'amour de Dieu, Jésus-Christ sur la croix. Nous aurons à rendre compte de notre réponse de l'amour que Jésus-Christ nous a offert. Si nous refusons, la Bible dit dans 1 Samuel 2:10, les ennemis de l'Éternel trembleront et l'Éternel jugera les extrémités de la terre. Sachez une chose, aujourd'hui, la volonté de Dieu ne change pas. Tout ce que nous avons besoin de savoir au sujet de Dieu, de ce qu'il désire pour nos vies, est révélé dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et cette parole, cette Bible, ne change pas. La volonté de Dieu n'est pas incertaine ou changeable. Et Dieu dit dans Ésaïe 40, verset 8, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La Bible nous a été donnée par Dieu. 2 Timothée 3:16 nous dit au sujet de la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le mot inspiré signifie respirer, souffler. C'est Dieu qui a soufflé les mots aux écrivains de la Bible. Et chaque mot est directement la volonté de Dieu qui ne change pas. Cette vérité ne change pas selon les sociétés, la culture ou les siècles. La Bible est notre guide, notre carte routière ou notre GPS, comme vous voulez. C'est qui nous mènera à la vie. Psaume 119, verset 89, affirme au sujet de la Bible. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Mais beaucoup de personnes contestent la véracité de la Bible. Beaucoup contestent son contenu. Ils ne veulent pas accepter la Bible comme la volonté de Dieu, parce que cela parfois les juge et les condamne. On préfère se faire croire à toutes sortes d'histoires pour apaiser notre conscience. Contester la volonté de Dieu n'est pas un phénomène nouveau. Déjà au début de la création, lors du premier péché de la race humaine, le diable a séduit l'homme par cette contestation de la volonté de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Comprenez-vous la ruse du diable aujourd'hui ? Il remet en question la parole de Dieu. Et c'est ainsi depuis la création. Mais il y a aussi une chose qui ne change pas. C'est la nature humaine. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais l'homme aussi. Malgré les siècles et les siècles, l'homme est toujours le même. Le prophète Jérémie écrit au sujet de l'homme, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître son cœur aujourd'hui? La nature humaine est la même partout dans le monde. Que l'être humain soit jeune ou vieux, qu'il soit blanc, jaune, rouge, noir, de toutes les époques, il est toujours le même. Pour ceux qui rêve de paix mondiale, écoutez les conclusions du président de l'Académie des sciences et de l'histoire. Après avoir voyagé en Angleterre, en Égypte, en Allemagne et en Inde, il nous dit que depuis 3600 avant Jésus-Christ, le monde n'a connu seulement que 292 années de paix. Durant cette même période, il y eut 14 351 grandes et petites guerres, dans lesquelles plus de 3,64 billions de personnes sont mortes. Des millions et des millions de personnes sont mortes. La valeur matérielle qui a été détruite peut représenter l'équivalent de la fabrication d'une ceinture d'or de 156 000 km de large par 10 mètres d'épaisseur qui entourerait la Terre. Toujours selon le même président, depuis 650 avant Jésus-Christ, l'homme a créé plus de 1656 catégories d'armes différentes. La Bible nous dit au sujet du cœur humain qui ne change pas. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs sans exception. Nous avons tous la nature humaine pécheresse, la nature adamique. Nous avons tous brisé les lois de Dieu, que ce soit un petit peu ou beaucoup. Jacques 2:10 affirme que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous pécheurs. Mais nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Et cela ne change pas. Nous aurons tous besoin de Jésus-Christ. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous a donné le salut. Le moyen que Dieu a donné à l'homme pour être sauvé ne change pas non plus. Dieu sauve les hommes de leurs péchés toujours de la même façon. Acte 4:12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Et ce nom est Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu s'est fait sauveur. Alléluia. On voudrait choisir notre propre chemin, notre propre voie, notre propre manière de faire. On voudrait se faire croire qu'il n'y a plus de péché en 2011. Mais c'est faux. Le nier ne changera pas la réalité du cancer humain, le péché. Et que l'homme a besoin du moyen de Dieu pour qu'il soit sauvé. Jésus-Christ, cela ne change pas non plus. Jésus dit au sujet de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Beaucoup d'hommes et de femmes trouvent ce moyen trop simple. C'est vrai qu'il est simple, tellement simple qu'il y en a peu qui le choisissent. Jésus dit dans Matthieu 7, versets 13 à 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Le chemin est si étroit qu'il a un sens unique. » Au bout de ce chemin, il y a la croix du Seigneur Jésus-Christ. Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Son sang a coulé pour nous, afin que par sa mort, nous ayons la vie. Et si nous croyons de tout notre cœur, la croix est une invitation à nous identifier avec Jésus-Christ. Amen. Comme si c'était nous qui étions morts à cause de nos péchés. Romains 6, 23 affirme, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que ce soir vous confessez de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur ?» Si nous mourons dans nos péchés, nous sommes séparés de Dieu et condamnés à aller en enfer. L'enfer est réel, ce n'est pas une fable. Mais si nous acceptons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, alléluia Seigneur, lorsque nous mourrons, nous serons acceptés par Dieu, car la punition de la mort, Jésus-Christ l'a subi pour nous. Et au moment où nous acceptons le salut, Le sacrifice de Jésus-Christ est pour nous personnellement. Est-ce que vous le croyez ce soir? La Bible déclare, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Moi je ne veux pas que la colère de Dieu demeure sur moi. Vous pouvez aujourd'hui recevoir la certitude de la vie éternelle. Et si c'est ce que vous désirez, dans quelques minutes, je vais vous inviter à le recevoir au nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ ne change pas. Jésus ne change pas. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu manifesté dans la chair. Mais nous avons besoin de changer. Hébreux 13:8 proclame, Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. Jésus a sauvé des hommes et il sauvera des hommes encore aujourd'hui et des femmes. Et il peut vous sauver aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez l'inviter dans votre cœur et changer toute votre vie. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Recevoir Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle façon de penser, d'agir et de parler. Cela ne va pas signifier que vous allez devenir parfait. Vous ne serez jamais parfait aussi longtemps que vous demeurez dans ce corps, car le péché habite dans ce corps de chair. Pas plus que vous trouverez une église parfaite. Il y aura toujours en vous et dans l'église des choses imparfaites. Mais le seul qui demeure parfait et qui ne change pas est Jésus-Christ. Est-ce que vous le confessez aujourd'hui? Jésus-Christ ne change pas et il veut vous sauver, il veut te sauver et il veut me sauver. Seigneur, je te remercie. Pour conclure, pour recevoir le salut que Jésus-Christ veut nous donner, il y a 3 choses qui sont nécessaires selon Actes 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Le verbe repentir signifie changement, faire un volte-face, changer de façon de penser, changer de façon de vivre, changer d'attitude à l'égard du péché. L'apôtre Pierre a fait la même invitation que je vous fais aujourd'hui. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et lors de son grand discours à Athènes, l'apôtre Paul dit la même chose. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Tous les hommes et les femmes ont besoin de la repentance. Vous ne pourrez jamais avoir l'assurance du salut sans la repentance. Si vos péchés ne sont pas pardonnés, vous n'aurez jamais la joie et la paix et la certitude dans cette vie présente sans la repentance. Il faut vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. 1 Pierre 3:21 nous dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. En nous faisant baptiser, nous ensevelissons, notre ancienne vie et nous ressortons en nouveauté de vie. Colossiens 2, verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Et vous devez recevoir une chose. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Vous devez recevoir l'Esprit de Dieu en vous. Être rempli du Saint-Esprit signifie recevoir Jésus-Christ en nous. Comme les apôtres au jour de la Pentecôte. Ce soir, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Actes 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Vous savez quoi, ce soir, nous sommes tous réunis dans un même lieu. Ce soir, si vous le désirez, c'est le jour de la Pentecôte pour vous. Vous savez quoi? Le jour, le 24 février 2008, j'étais ici, en train de me repentir. Je demandais, Seigneur, je veux être sauvé, pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés. Seigneur, je suis impur, Seigneur. Seigneur, j'étais un drogué, Seigneur. Seigneur, j'étais un dealer, un menteur. Seigneur, je pratiquais la fornication. Je pratiquais tout ce qui était impur. Seigneur, pardonne-moi. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur m'a donné une vision. Il m'a montré sa gloire. J'ai levé mes yeux, le frère Alain Cabessa priait avec moi. J'ai ouvert mes yeux, le Seigneur m'a montré la croix. Il m'a montré la croix là où il est mort. Et au-dessus de la croix, j'ai vu un trône. Et sur ce trône était assis un homme. J'ai compris que c'était mon Dieu qui était assis sur ce trône. Et mon Dieu Jésus-Christ. Et quand j'ai confessé le nom du Seigneur, je me suis mis à parler d'autres langues. Au nom de Jésus. Est-ce que ce soir tu veux recevoir l'Esprit de Dieu? Il y a d'autres personnes ici qui ont été remplies du Saint-Esprit. Le frère Jean-Louis était ici présent. Nous avons prié avec lui. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il a parlé en d'autres langues. Oh Seigneur, fais-le. Seigneur, déverse ton esprit dans ce lieu. Seigneur, je te prie, Seigneur, que la Pentecôte, Seigneur, se déverse dans ce lieu. Remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur, et de feu. Seigneur, viens consumer le péché, Seigneur Jésus. Viens consumer tout ce qui est impur dans ce lieu. Au nom de Jésus. Oui, Rechor Mahaya. Sauve, Seigneur. Je vais vous inviter à vous relever. À vous lever. Est-ce que quelqu'un veut recevoir l'Esprit de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un a besoin d'être renouvelé du Saint-Esprit ce soir? Être sauvé signifie, cela signifie que vous êtes sauvé du jugement dernier. Cela signifie que vous êtes sauvé de l'enfer. Cela signifie que vous avez une joie et une nouvelle paix dans votre cœur par le Saint-Esprit. Vous savez, vous allez avoir des difficultés dans votre vie. Cela ne changera pas parce que la vie est faite ainsi. Mais vous avez reçu une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous devenez des témoins de Jésus-Christ. Ce soir, je peux vous confesser que les actes des apôtres, je le vis chaque jour de ma vie. J'ai prié avec des malades et les malades ont été guéris. J'ai prié avec certaines personnes et ces personnes ont été délivrées. Au nom de Jésus, j'ai prié avec des frères et des sœurs et ces personnes ont été remplies du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez ce soir? Par la foi, recevez Jésus-Christ dans vos vies. Et il y a une chose aussi. Cela signifie que lorsque vous mourrez, vous irez au ciel. Vous savez, le monde n'a aucun espoir. Le monde est condamné à aller dans la géhenne. Mais si ce soir, vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie et vous obéissez à sa parole, soyez sûr que vous pourrez le glorifier dans le ciel. Les temps, nous arrivons à la fin et Jésus-Christ revient. Noé prêchait, mais les gens vivaient, se mariaient, continuaient à faire la fête. Pourtant, quand le déluge est arrivé, la porte s'est fermée. La porte s'est fermée. Et ceux qui sont restés sont morts, noyés. Il en est de même pour ce monde aujourd'hui. Jésus-Christ dit, je suis la porte. Mais un jour, cette porte se fermera. Quand Jésus-Christ reviendra. Et moi, je prie le Seigneur que ce soir, vous acceptiez Jésus-Christ. L'autel est ouvert. L'autel est ouvert à toute personne qui veut se repentir. À toute personne qui a besoin d'être renouvelée du Saint-Esprit. N'ayez pas honte. Approchez-vous de la croix. Déposez vos fardeaux au pied de la croix. Je vais inviter...